Cinquième partie. Merci pour le chocolat. Chapitre 20. Gina, 17 juillet 2018. Patricia Ferrani habite un immeuble bourgeois de la 88e rue en plein cœur de l'Upper East Side, quartier le plus cher des États-Unis, à ce que j'ai compris. On le surnommait autrefois le quartier des bas de soie. Et c'est aujourd'hui là que vivent nombre de célébrités comme Madonna, Woody Allen ou Patty Milano, donc. Pas vraiment ma tasse de thé, ces rues aseptisées bordées de boutiques de luxe et d'immeubles avec portiers. Mais la balade depuis Times Square nous a permis de passer devant le musée Guggenheim et j'ai adoré ce bâtiment blanc aux formes arrondies que l'on dirait tout droit sorti de l'imagination d'un pâtissier fou. Olga, avec son pragmatisme, la comparer à un millefeuille en spirale. Et c'est plutôt juste. Il y a un café avec une petite terrasse à l'ombre juste à côté de l'immeuble cossu de Patricia. De là, nous avons une vue imprenable sur son entrée. Le lieu est une improbable enclave française, le café d'Alsace, dans laquelle sont proposés choucroute, Riesling et Gewürztraminer. Mais il n'est même pas 10 heures, alors nous nous contentons de 2 cafés allongés et 2 verres d'eau frétillante, que nous payons d'avance au cas où nous devrions partir précipitamment. Olga est surexcitée. Elle n'a pas arrêté de parler de Patty Milano toute la soirée. Elle sait que cette rencontre est importante pour moi. Patricia fait partie des rares personnes à m'avoir donné foi en l'être humain. Alors Olga s'agite pour que j'évite de trop stresser. Elle me connaît par cœur. Elle a le don pour m'apaiser. Je la regarde et je souris. Ça n'était pas dans mon plan initial de la retrouver à New York. J'avais d'autres plans pour elle, à mon retour à Paris. Mais je suis heureuse qu'elle soit à mes côtés. Je pose ma main sur la sienne. Elle lève les yeux vers moi, sourit à son tour. Gina, Gina, Gina. J'ai toujours su que tu étais remplie de surprises, mais là, j'avoue que tu t'es surpassée avec ton histoire de casino et cette lubie extravagante de revivre les moments forts de ta vie. Je dois dire que je suis un peu jalouse de ne pas avoir eu l'idée. Elle éclate de rire. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle, revivre les moments forts de ma vie. Mais je crois qu'elle a raison. Il y a de ça dans ce voyage. Tu sais, Olga, je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre, mais j'aimerais que toi aussi tu revives les moments forts de la tienne, si tu en as envie. J'aurai les moyens, nous avons du temps pour voyager et nous sommes encore en forme, alors autant en profiter. Si tu veux que l'on se rende en Ukraine ou ailleurs, je t'y accompagnerai avec plaisir. Enfin, si tu préfères y aller seule, je respecterai ton choix. Ne dis pas de sottises! Ça m'a fait de la peine que tu sois partie sans moi. Mais je comprends. De mon côté, je ne veux plus te quitter. Ses yeux brillent. Oh, tu exagères, Olga. Tu vas nous faire pleurer, alors qu'on n'a jamais été aussi près de rencontrer Patty Mill. Je n'ai pas le temps de finir. Olga me lance un coup de coude et d'un signe de tête me désigne 2 silhouettes qui viennent de sortir du bâtiment. Une femme âgée, longiligne, vêtue d'un ensemble blanc, portant lunettes noires et foulard coloré autour du cou, une autre, nettement plus jeune et plus ronde, sans lunettes noires, mais portant à son bras un cabas en toile et tenant en laisse un caniche blanc. Nous les suivons, d'abord à bonne distance. Olga est morte de rire. Elle chuchote que nous sommes en filature en poussant de petits gloussements idiots. Je lui rétorque qu'elle va nous faire remarquer et qu'elle ferait bien d'arrêter de marcher sur la pointe des pieds si elle ne veut pas finir par glisser. Mais elle y prend goût, me donne du « mon cher Watson » dès que j'ouvre la bouche, alors je laisse tomber. Je me rends compte que je ne sais pas comment aborder Patricia. J'ai pourtant imaginé ce moment des milliers de fois, mais la personne en face de moi était toujours la petite fille de 6 ans que j'ai connue. Je ne l'ai jamais visualisée adulte, encore moins star de Broadway. Soudain, la vieille dame qui est devenue Patty Milano s'assied sur un banc ombragé, son chien sur ses genoux. La jeune femme qui l'accompagne est entrée dans une épicerie fine. Olga est en transe. Elle chuchote des « Vas-y, bon sang !» comme si elle était à la tête d'un commando secret dans un film avec Sylvester Stallone. Je me mets à trembler. J'avance en prenant de grandes inspirations. J'y suis. Je lui demande si je peux m'asseoir sur le banc, moi aussi. Mais je le dis en français. Punaise, je ne parle pas suffisamment anglais pour pouvoir tenir une conversation avec elle. Comment vais-je pouvoir lui dire tout ce que j'ai à lui dire ? Elle m'envoie un signe de tête poli et un léger sourire pincé. Il faut que je me lance. C'est maintenant. Vous parlez français ? Elle se tourne vers moi, mais ses verres teintés m'empêchent de voir ses yeux. Un petit peu. Je l'ai appris il y a longtemps, et j'ai vécu en France quelques années. Elle parle extrêmement bien ma langue, et ça m'enlève un poids incroyable. Elle ôte ses lunettes, probablement intriguée par cette vieille Française venue lui faire la conversation sur ce banc de l'Upper East Side. Je l'observe, et note immédiatement ce visage ultra lisse et ses lèvres gonflées, typiques des accros à la chirurgie esthétique. Je ne sais pas pour quelle raison l'aspect de ce visage m'émeut autant. Sans doute parce qu'il y a ses yeux que je reconnais immédiatement. Reconnaît-elle les miens ? Qui êtes-vous, madame ? C'est Patricia qui vient de parler. Qui êtes-vous, madame ? La même question, mais sa voix est plus serrée. Je m'approche, lui saisis la main. Elle se laisse faire, tout en tremblant autant que moi. Elle a compris. Soudain, elle et moi avons 6 ans. Nous sommes depuis 5 jours avec 2000 autres passagers sur le bien nommé America, arrachés à notre vie en Europe par ce géant des mers, direction le Nouveau Monde. Le voyage est éprouvant pour moi qui suis logé dans l'entrepont, juste au-dessus des vibrations saccadées des machines. Dans cette cabine de 3e classe sans hublot, nous sommes une 20aine de passagers entassés dans 40 mètres carrés sur des couchettes superposées qui sentent le chien mouillé. La chaleur est étouffante et le vacarme de la ferraille en mouvement assourdissant. Ma mère est enceinte jusqu'aux dents, mais elle n'a droit à aucun traitement de faveur. Elle passe ses journées allongées dans ce qui ressemble à s'y méprendre à une cave, dans l'odeur âcre des voyageurs n'ayant accès qu'à un dérisoire point d'eau collectif, et avec pour seule décoration des valises en cuir pleines à craquer et des couvertures jaunâtres. L'escalier menant à la promenade extérieure qui nous est réservée est raide, étroit et glissant. Elle ne peut plus le grimper. Je passe, de mon côté, le plus de temps possible sur ce morceau de pont inférieur où les passagers de 3e classe s'agglutinent dès que la météo et l'océan le permettent. Patricia est une passagère de 1ère classe. Les conditions de son voyage n'ont absolument rien à voir avec les miennes. Je ne peux pas les décrire, car je n'ai jamais mis les pieds là-haut, mais je sais que pour ces passagers-là, les installations sont luxueuses. On dit qu'il y a une chapelle où se recueillir et qu'il y a même une salle de spectacle et une piscine. Les passagers de 1ère et ceux de 3e ne se rencontrent jamais. Il n'y a pas d'espace commun. Avant le naufrage du Titanic, en 1912, il y avait même des grilles de séparation entre les classes. Ces grilles ayant été accusées d'avoir empêché les plus pauvres de gagner les canots de sauvetage, elles ont été supprimées depuis et remplacées par des matelots surveillant les lieux de passage. Un jour, pourtant, sur le pont réservé aux passagers de 3e classe, je tombe nez à nez avec une jolie petite fille blonde. Elle pleure mais ne dit rien et déambule, l'air perdu. Je remarque tout de suite sa tenue, semblable à celle d'une poupée. Malgré sa robe à volant bleu marine et ses rubans dans les cheveux, personne ne fait attention à elle. Pour bien s'imaginer l'ambiance sur ce pont inférieur, il faut visualiser la foule compacte d'un concert de rock, y ajouter des conversations dans différentes langues, des voix poussées au maximum pour couvrir le bruit des moteurs, et puis des enfants qui chahutent entre les jambes d'adultes indifférents à leur présence. Je m'approche de la petite fille au teint de porcelaine. Je lui parle en français. Elle me répond dans la même langue, me dit s'appeler Patricia, s'être perdue ici en jouant à cache-cache. Je la rassure. Elle sèche ses larmes. Mon père accepte que j'aille m'amuser un peu plus loin, car il est en grande conversation avec un Italien qui pourra peut-être lui trouver un boulot, là-bas, à New York. Sans cela, mon père veut toujours me garder près de lui. Toujours cette peur panique familiale de perdre un enfant. Patricia et moi cherchons comment retourner chez elle, et chemin faisant, nous nous racontons nos vies comme on le fait à cet âge. Les enfants ne se transmettent jamais les informations qui intéressent les adultes. Tout juste échangent-ils leur prénom, un regard, un sourire, et c'est bien suffisant. Nul besoin de connaître ce dont les grandes personnes raffolent. Le métier des parents, la ville d'origine, le milieu social, tout cela est indifférent à 5 ans. Je ne me souviens plus précisément de nos jeux, mais je sais que nous étions si bien ensemble que le lendemain, Patricia est revenue. Intentionnellement et en secret, cette fois-ci. Le surlendemain, ma mère a accouché, dans notre cabine. Quelques femmes se sont occupées d'elle. Tout allait très vite, mais tout allait très mal. C'était un accouchement difficile. Mon frère n'était pas tourné dans le bon sens. Il fallait manipuler le ventre de ma mère pour le faire revenir dans le droit chemin. J'étais dans la cabine d'à côté avec mon père, mais j'entendais les cris de ma mère. Et chaque cri déchirait l'espace en même temps que mon cœur. Mon père, qui tentait de faire bonne figure, était livide. À un moment, une des femmes est sortie, a lancé qu'il leur fallait absolument du sucre. Ma mère était à bout de force, elle en avait besoin pour tenir. Personne n'avait ce genre de choses. La femme a demandé à mon père de la suivre, il fallait qu'il vienne soutenir ma mère, qu'il lui parle, qu'il soit là au cas où elle mourrait aussi. Alors je me suis précipitée sur le pont et j'ai hurlé de toutes mes forces « Sucre ! Zucchero !» Je pleurais et je continuais de hurler ces 2 mots que j'avais entendus. C'est à ce moment-là que Patricia m'a prise dans ses bras. Je ne l'avais pas vue, j'ai sursauté. Je lui ai expliqué ce qu'il se passait. J'ai vu dans ses yeux bleus toutes les nuances de terreur qu'une petite fille est capable d'exprimer. Alors, elle a fouillé dans la poche de sa robe et elle en a sorti un chocolat. L'une de ces friandises extraordinaires entourée d'un papier doré. Elle me l'a tendue, m'a ordonné de filer l'amener à ma maman en train de mourir, et puis elle m'a dit qu'elle allait prévenir là-haut, qu'elle allait demander qu'un docteur vienne et qu'on amène encore du sucre, encore du chocolat. Elle a disparu, j'ai filé. Quelques instants plus tard, ma mère a mâchonné le chocolat de Patricia, et d'après ce qu'ont raconté les femmes, ce chocolat a tout changé. Il a brisé la douleur, ravivé la flamme, il lui a permis d'aller au bout. Lorsque j'ai entendu les cris de mon petit frère de l'autre côté de la porte, j'ai fondu en larmes. Une 10 minutes plus tard, un médecin est arrivé et ma mère et mon frère ont été emmenés dans le centre de soins du bateau. Ce qu'a fait Patricia ce jour-là, je ne l'ai jamais oublié. Je la regarde, 80 ans plus tard, sur ce banc de l'Upper East Side, et c'est toute mon histoire qui défile dans ma tête. Cela fait maintenant près de 30 secondes que je tiens sa main dans la mienne et qu'aucune de nous ne bouge. Nous nous regardons en silence, immobiles. Je n'ai pas besoin de me présenter. Alors, je fouille quelques instants dans mon sac à main et puis j'en sors un tout petit, un minuscule morceau de chocolat. Je le lui tends, les yeux remplis de larmes. Merci, Patricia. Elle avance sa main. Ses traits se crispent. Elle regarde alternativement le chocolat et mon visage. J'ai l'impression qu'un seul de ses regards pourrait me transpercer. C'est beau ce que je vois passer dans ses yeux. Elle prend le chocolat dans sa main et elle se met à sangloter. Puis elle se jette sur moi, m'entoure de ses bras et je l'entoure des miens. Lorsque l'assistante de Patricia revient avec son cabas plein, elle est horrifiée de voir l'état dans lequel je l'ai mise. Elle s'apprête à m'ordonner de partir sur le champ, pensant sans doute à avoir affaire à une admiratrice indélicate, mais Patricia lui répond « C'est une amie de longue date. Nous avons 80 ans à rattraper. Rentrons à la maison, Dianis. Enfin, j'imagine que c'est quelque chose dans ce genre, vu que je ne pipe rien à ce qu'elle vient de dire. » Olga nous rejoint et je suis surprise de la voir si intimidée. Comme quoi, c'est toujours ceux qui s'agitent beaucoup qui cachent le mieux leur timidité. La suite est un peu, beaucoup, surréaliste. Nous passons de longues heures avec Patricia. Je lui raconte ma vie façon puzzle. Elle fait la même chose et agrémente la conversation d'anecdotes croustillantes sur des acteurs célèbres dont je tairai le nom. Toute la palette des émotions y passe, mais globalement, nous rions beaucoup. Patricia est adorable, vraiment. Ce qui me touche le plus, c'est sa façon de parler de Patty Milano comme si ça n'était pas elle. Comme s'il s'agissait d'un corps étranger, ou bien d'un costume qu'elle aurait enfilé il y a des décennies, qui lui aurait collé à la peau, apporté son lot de joie et de bonheur, mais aussi une cohorte de désillusions. Un costume qui l'aurait, en quelque sorte, étouffé. C'est étrange. J'ai même l'impression que cela se manifeste à travers son souffle. Elle ne s'apitoie pas sur son sort, non. Elle est bien trop consciente de la chance qui a été la sienne tout au long de sa vie. Mais elle est également très consciente d'avoir été, sous bien des aspects, une femme empêchée. Empêchée de revoir son amie Gina sur ce bateau, lorsque ses parents ont compris qu'elle s'était aventurée là où elle n'aurait jamais dû se trouver. Chez les pauvres. Voilà pourquoi elle a tant aimé jouer dans West Side Story, incarner une portoricaine pauvre dans ce Roméo et Juliette sur fond de construction des États-Unis, résonnait tout particulièrement en elle et contre ses origines bourgeoises. Empêchée de vieillir aussi. Elle nous confie avoir souffert terriblement lorsque le désir des metteurs en scène, des réalisateurs, des spectateurs s'est tari. Lorsque les lettres d'admirateurs se sont raréfiées. Alors, elle a fait comme toutes les autres. Elle a subi une opération, puis une autre, puis un peeling, un nouveau lifting, une course contre le temps inutile, puisque le temps gagne toujours. Aujourd'hui, elle ne reconnaît plus rien de Patricia dans le visage de Patty. Empêchée d'être mère, enfin. Tant il était difficile pour une actrice, qui plus est candidate à des rôles de séductrice ou de femme fatale, de mettre entre parenthèses sa carrière pour avoir un enfant ou de rencontrer un homme sincère. Encore une fois, je n'ai pas à me plaindre. À travers Patty, j'ai vécu une vie de fête, de légèreté outrancière, de paillettes. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais la lumière n'a jamais remplacé l'amour. Mon plus grand regret restera de ne pas avoir fondé une famille. Et de m'être retrouvée seule, assise sur ma gloire passée, sans personne avec qui partager tout cela. Je jette un œil à Olga, plus mutique que jamais. Quant à moi, je suis bouleversée, mais également étonnée de la facilité avec laquelle Patricia se confie à moi qui ne suis qu'une étrangère. Tu n'es pas une étrangère, Gina. La preuve, c'est que tu es là aujourd'hui. J'ai très souvent repensé à toi tout au long de ma vie. Je t'ai cherché dans les registres d'Ellis Island, mais je ne t'ai pas trouvé. C'est parce que tout le monde m'appelle Gina, mais à l'état civil, mon prénom est Virginie, encore aujourd'hui. Satanés employés de l'immigration. Moi aussi, ils ont déformé mon prénom, tu sais. Bref, what was I saying? Oui, que je t'ai toujours gardé une place, quelque part. Là. Elle désigne son cœur et sa tête dans un même mouvement. Puis elle se penche vers moi et me glisse. J'ai parfois eu l'impression d'avoir fait du mal autour de moi. Alors je ne sais pas. Mais te rencontrer aujourd'hui, me remettre en mémoire ce souvenir, c'est l'une des seules fois de ma vie où j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose de vraiment utile. Ne m'en veux pas si ma réaction et tout ce que je te raconte semblent démesurés. Mais ta venue aujourd'hui, c'est comme une rédemption. Nous sortons de chez Patricia un peu sonnés. Il est plus de 17h. Nous n'avons pas vu le temps passer. Olga n'arrête pas de parler, comme une cocotte minute dont la soupape exploserait après un trop-plein de silence. Patricia Ferrani a refusé mes 100 000 €. Je m'y attendais, dès lors que j'ai su qui elle était. Mais nous nous sommes jurés de ne plus nous perdre de vue. Elle m'a fait promettre de lui rendre visite de nouveau. Et de son côté, elle s'est engagée à venir me voir à Paris. Et puis, Patty Milano a repris du service. Elle a appelé le directeur du théâtre de Broadway, dans lequel se joue West Side Story en ce moment, et nous a dégoté 6 places pour demain soir. 4 pour Chloé, Olga, Luther et moi, 2 pour Janice et elle. Je l'ai remerciée 1000 fois et Olga est devenue comme folle. Si j'étais québécoise, je dirais qu'Olga capote. Elle capote d'ailleurs tellement qu'elle est prise d'une frénésie de balade alors que je ne pense qu'à rentrer me reposer à l'hôtel. Elle oublie parfois que j'ai 10 ans de plus qu'elle. Je me trouve très en forme pour une vieille mémé, mais là, c'est exagéré. Elle m'oppose que nous sommes restées assises toute la journée, ce qui n'est pas faux. Elle m'affirme avoir un lieu à me faire découvrir. Un seul, et puis on rentre, promis. Alors j'accepte de la suivre.